Nous sommes lundi et comme chaque semaine, vous retrouverez dans un instant la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Difficultés pour les avions d'Air Canin, deux de leurs appareils ont connu des pannes qui ont généré des reprogrammations de vol. Le général Soubry a pris ses fonctions, il est le nouveau commandant supérieur des FANC après une cérémonie ce matin, place Bir Hakeim. Nour Atallah a quitté la France pour le Qatar. Cette étudiante gazaoui qui a tenu des propos antisémites était devenue une épine dans le pied du ministère français des Affaires étrangères. Et puis à Rome, la fin du jubilé des jeunes. Le pape Léon XIV a célébré la messe de clôture devant 1 million de jeunes venus du monde entier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui se prolongera par le magazine des sports du lundi. Bonjour Mickaël Juneski.
Et bonjour Jean-François.
Nous y parlerons notamment en natation avec la très belle performance des Français aux Mondiaux à Singapour.
Oui, et avec un grand grousset pour ces Mondiaux en grand bassin. Le Calédonien qui a conquis 2 titres individuels à Singapour et encore de l'argent et du bronze en relais avec l'équipe de France, ce qui lui permet au passage de devenir le nageur français le plus médaillé en championnat du monde en grand bassin. Un total de 10 podiums depuis sa première participation en 2019.
En cyclisme féminin, Pauline Ferrand-Prévot est entrée dans l'histoire du Tour de France féminin.
La grande boucle a trouvé sa reine. Après avoir trusté les podiums olympiques et mondiaux en VTT, cross-country et cyclisme sur route, Pauline Ferrand-Prévot qui a ajouté une ligne de plus à son palmarès déjà bien étoffé pour sa première participation au Tour de France. Elle termine avec le maillot jaune et une dernière victoire d'étape en prime.
Et nous parlerons évidemment dans le magazine des sports de tous les résultats du week-end et on jettera un coup d'œil sur le week-end prochain en Calédonie avec un événement phare dans le monde du hippisme.
Oui, si ce n'est le plus prestigieux de la saison sur l'hippodrome Roman Rémillard de Nouméa, la Casino Coupe Clark, une nouvelle page de l'histoire d'amour entre les Calédoniens et le cheval va s'écrire lors de cette 91e édition. Dimanche prochain, nous en parlerons dans le Mag des Sports, donc avec Eric Sauvant, le président de la Société Sportive de Nouvelle-Calédonie, ainsi que le président de la Fédération des courses hippiques, Nicolas Schneider.
Le magazine des sports, ce sera donc dès la fin de ce journal et l'autre rendez-vous du lundi, vous en avez l'habitude, c'est la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, que l'on retrouve tout de suite.
L'accord de Bougival est-il fini ? Menacé de mort au bord du naufrage, Manuel Valls ne le croit pas. Et il martèle sa conviction sur tous les tons, sous toutes les formes et dans tous les médias. Le ministre des Outre-mer multiplie les interventions pour affirmer qu'il n'y a pas péril en la demeure et qu'il suffit de dialoguer pour lever les ambiguïtés. Il semble persuadé qu'il suffit que sa porte reste ouverte pour éclairer et compléter l'accord de Bougival et que le dialogue permettra de surmonter les incompréhensions. Il est convaincu que la réunion prochaine du comité de rédaction, destinée à affiner et consolider les textes des lois constitutionnelles et organiques, permettra de clarifier l'esprit de l'accord pour tous les Calédoniens. Un peu comme s'il voulait se convaincre lui-même que tout va bien. Mais ce n'est pas le cas. L'attitude de l'UC plombe véritablement le projet d'accord de Bougival. D'autant plus que, sauf énorme et improbable surprise, le FLNKS, qui réunit samedi prochain son congrès extraordinaire, rejettera lui aussi le document que sa délégation a signé. Les motivations de ce rejet par la fraction la plus radicale des indépendantistes sont doubles. La première est purement factuelle, c'est celle de ses signataires qui sont les otages de la CCAT, mais qui tente de sauver la face en se réfugiant dans le formalisme. C'est Emmanuel Tchibaou qui déclare qu'il a signé mais pas paraphé, qui rappelle qu'il n'avait pas mandat pour signer un accord et qui acte le refus du document par sa base. Le deuxième, c'est un rejet sur le fond, quand l'Union calédonienne parle d'un leurre de souveraineté permettant le maintien de la Nouvelle-Calédonie française. L'UC rejette le projet d'accord au motif qu'il ne respecte pas les fondamentaux de la décolonisation et qu'il ne reconnaît pas le peuple kanak. Et ces arguments sont repris et déclinés ad nauseam par la myriade de petits partis ou associations souvent microscopiques regroupés dans le nouveau FLNKS. Face au risque de rejet de l'accord, Manuel Valls a pris sa plume pour récuser un à un ses arguments. Mais pour autant, il serait naïf de penser qu'il pourra convaincre les plus radicaux des indépendantistes à force de pédagogie et d'arguments rationnels. On sait que cela ne fonctionne pas et il suffit pour s'en convaincre de se rappeler le débat sur l'ouverture du corps électoral. L'État est donc devant un choix. Soit il poursuit le processus comme si de rien n'était, en comptant sur le soutien d'une large majorité, représentée par tous les partis signataires, sauf l'UC. Mais il sera forcément accusé par l'UCCCAT de vouloir passer en force. Et le Parlement pourrait traîner les pieds pour mettre en œuvre un accord qui ne fait pas consensus en Nouvelle-Calédonie. Soit il rouvre la discussion, au risque de faire bouger les lignes en renégociant un accord qui représente un subtil équilibre et qui ne peut pas être détricoté. Il ne faut pas non plus qu'à force de vouloir rassurer les indépendantistes, le ministre des Outre-mer en vienne à pénaliser les partisans de la France qui ne peuvent pas accepter d'aller plus loin dans les concessions qu'ils ont faites. Un vrai dilemme pour le ministre des Outre-mer, qui pensait avoir levé la malédiction du dossier calédonien quand il a célébré la signature de cet accord historique à l'Élysée, en présence du chef de l'État, du Premier ministre et des présidents des deux assemblées. Il pensait avoir réédité le miracle de l'accord de Matignon, mais le pari de la confiance, sous-titre de l'accord de Bougival, n'est pas encore gagné.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, elle est à retrouver sur notre site internet rrb.nc. Elle est aussi rediffusée cet après-midi. Ce sera comme chaque semaine, juste après le flash de 16h. L'actualité du transport avec d'abord cette série d'accidents pour Air Calédonie International. Les équipes de la compagnie sont à pied d'œuvre depuis le début du week-end pour faire face à plusieurs problèmes techniques. La ligne Singapour-Nouméa a été impactée par une panne d'appareil. L'avion a pu finalement atterrir hier soir à Tontouta. Mais les vols SB740 et SB741 prévus hier ont été reprogrammés à aujourd'hui. L'Airbus A330neo de la ligne Paris-Nouméa via Bangkok n'a quant à lui pas encore pu être remis en service pour assurer le vol SB501. Il devrait être reprogrammé au départ de Paris-Charles de Gaulle ce lundi 4 août, sous réserve de confirmation. Plus de 300 passagers sont concernés par cette panne, dont une quarantaine sont bloqués en Thaïlande. Et puis du côté du transport maritime, Nicolas Legrand, le Betticho a été réparé, mais elle a dû faire demi-tour.
Oui, en cause, les mauvaises conditions météo. Vers 9h ce matin, la houle était de 4 mètres au niveau de la passe de la Havana, forçant ainsi l'équipage à rebrousser chemin en direction de Nouméa. Il s'agissait de la rotation vers Lifou, qui sera reprogrammée mercredi. Celle de Maré avait déjà été annulée en raison des mauvaises conditions de navigation. Je rappelle par ailleurs que le bateau de la Sud-Île avait déjà été immobilisé une semaine en raison d'une panne du gyrocompas. Un mécanicien spécialisé est venu de Malaisie pour effectuer les réparations hier, mais son arrivée avait pris du retard en raison des problèmes chez Aircalin.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. La multiplication des problèmes techniques, des retards et des annulations de vols risque-t-il, selon vous, de remettre en cause l'avenir de la compagnie Air Calédonie Internationale? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Il est 11h38. On va marquer une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie. Et notamment un nouveau général à la tête des forces armées.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Waouh! Il nous faudrait vraiment plusieurs vies pour profiter de tout Canal+.
Justement, Canal+ casse les prix de ses formules à seulement 5000 francs par mois pendant 2 ans.
Avec toutes les chaînes Canal+ incluses?
Oui! Jusqu'à plus de 150 chaînes à prix canon. À toi le meilleur du sport, le cinéma ultra récent et tes séries exclusives. Jusqu'au 30 septembre, pour tout nouvel abonnement de 24 mois à Sélection+, Essentiel+, Premium+ ou Ultimate+, bénéficiez du tarif unique de 5000 francs par mois. Le mois en cours est offert. Offre soumise à condition, valable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com.
Gédimat, 51 rue Hauer à Ducos, c'est le partenaire des pros et des particuliers. Peinture, lasure, revêtement de sol et mur, salle de bain, produits techniques, étanchéité, électroportatif et quincaillerie. Gédimat, 25 98 84 ou sur Facebook, Gédimat Nouméa.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Calédonie avec cette cérémonie importante. Ce matin, place Bir Hakeim, Lionel Sabot, le général de brigade Gabriel Soubrier a en effet officiellement pris ses fonctions de commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie.
Une prise de commandement lors d'une cérémonie de dépôt de gerbes, place Bir Hakeim, cérémonie en présence du haut-commissaire Jacques Billan, du général Aouchine, le commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie, du maire de Nouméa, Sonia Lagarde, de la présidente du Congrès, Velma Falaeo, de Petelo Sao, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de Philippe Blaise, premier vice-président de la province sud, et des représentants des associations d'anciens combattants. Écoutez le général Soubrier qui ne découvre pas la Nouvelle-Calédonie.
C'est pas sans émotion que j'ai reposé le pied sur le territoire calédonien il y a 2 jours, puisque j'ai eu la chance de servir en Calédonie il y a une vingtaine d'années à Nandaï. Donc c'est une grande joie pour moi de venir prendre ce commandement. Grande fierté aussi, fierté de commander les forces armées en Nouvelle-Calédonie. Commander, c'est plus de 2000 hommes et femmes au service du territoire calédonien et de l'ensemble des Calédoniens. J'aborde aussi cette mission avec beaucoup d'humilité, parce que même si j'ai exercé des fonctions de capitaine il y a une vingtaine d'années, je sais que j'ai encore beaucoup à découvrir, j'ai encore beaucoup à apprendre, j'ai encore beaucoup à comprendre. Et donc c'est avec beaucoup d'humilité, surtout dans le contexte international et régional actuel, que je prends ces fonctions.
Le général Soubry est âgé de 50 ans, il est diplômé de Saint-Cyr et a réalisé l'ensemble de sa carrière dans les troupes de marine. Il a notamment été le chef de corps du 1er régiment d'infanterie de marine d'Angoulême entre 2017 et 2019. Le nouveau Comsup a également été engagé sur de nombreuses opérations extérieures en Europe de l'Est, mais aussi en Afrique. Il prend le commandement des FANC dans un contexte, vous l'avez entendu, international très particulier et dans une zone du monde qui focalise de plus en plus l'attention.
Les forces armées en Nouvelle-Calédonie ont un vrai devoir aujourd'hui de poursuivre cette mission de défense et de promotion de notre souveraineté française dans la profondeur. Cette profondeur stratégique, cette profondeur de notre souveraineté ici, se fera tout d'abord en exploitant au mieux les ressources qui nous sont allouées pour remplir le contrat opérationnel. C'est aussi en valorisant la dynamique jeunesse qui est mise en place depuis un certain nombre d'années par les forces armées en Nouvelle-Calédonie et qui nous permettent aujourd'hui d'entraîner cette jeunesse pour la cohésion nationale. Et c'est enfin honorer les rendez-vous, honorer notre contrat dans la région avec nos alliés, avec nos partenaires. Et je pense que l'Académie du Pacifique, par exemple, est un bon outil pour y parvenir. Et nous ne ferons rien sans coordination étroite avec les forces armées en Polynésie française, avec qui nous partageons deux grandes zones de responsabilité dans le Pacifique Sud.
Le général Soubrier qui succède donc au général de division Yann Latil, qui a quitté le territoire il y a quelques jours. J'ajoute pour la petite histoire, Jean-François, qu'il y a quelques jours, le contre-amiral Jean-Baptiste Soubrier, c'est le frère du nouveau Comsup, a pris le commandement des forces armées aux Antilles. Les deux frères qui ont été nommés à leur poste respectif par le même décret en date du 19 juin 2025.
53 étudiants vont quitter le territoire pour leur formation grâce à Cadre Avenir. Depuis sa création en 1989, ce sont déjà près de 2200 Calédoniens qui ont pu être aidés par ce dispositif de formation pour devenir cadre moyen ou supérieur. Le groupement d'intérêt public fixe le cap pour que ces cursus correspondent bien aux besoins du territoire. C'est ce que nous a dit Steven Joop, le directeur de Cadre Avenir. Il était ce matin notre invité à 7h30.
Potentiellement, tous les secteurs sont ouverts, publics comme privés d'ailleurs. Les candidats viennent nous voir avec un projet et nous mettons en place des filières dites prioritaires de manière à répondre à l'objectif qui est de développer la Nouvelle-Calédonie. Et donc, nous concilions les projets individuels avec les filières qui ont été définies comme étant prioritaires.
L'idée, c'est de combler éventuellement un certain nombre de secteurs en souffrance.
Absolument. Sur la cohorte là, qui s'en va au mois d'août, vous avez plusieurs jeunes qui sont déjà dans les filières de santé, soit en médecine, soit en odontologie, soit en pharmacie. Et sur les métiers de l'administration plus généralement, et puis sur les fonctions publiques dites régaliennes, notamment la justice, nous avons formé beaucoup de Calédoniens, alors pas tous sur les fonctions de magistrat, quelques-uns, il y en a un qui est en cours de formation à l'École nationale de la magistrature actuellement, mais vous avez tous les métiers de l'administration pénitentiaire, par exemple, où beaucoup de Calédoniens ont été formés sur des fonctions d'encadrement.
L'objectif de Cadre Avenir est de former des Calédoniens à exercer des fonctions managériales sur le territoire et Steven Joop affirme qu'une grande majorité d'entre eux revient exercer en Calédonie.
Ils s'engagent à rentrer dans l'année qui suit la fin de leur diplomation et venir travailler au moins pendant une période de 5 ans. Sur les statistiques dont on peut disposer, environ 80% des bénéficiaires reviennent. Alors ça prend quelquefois un peu de temps. Ils ne reviennent pas forcément dans les mois qui suivent la fin de leur formation, mais globalement, ils reviennent. Le taux de 80% est atteint au bout de 4 ans. Et puis on sait très bien que les Calédoniens, une fois qu'ils sont rentrés au pays, ils y restent, ils s'y installent durablement.
Le Cadre Avenir s'adresse aux étudiants en formation initiale, mais aussi aux professionnels qui souhaitent se réorienter. Cette année, plusieurs candidats au chômage ont souhaité bénéficier du dispositif, notamment des anciens de KNS. La campagne de recrutement pour la rentrée de septembre 2006 en métropole, c'est-à-dire la prochaine promotion de Cadre Avenir, est déjà lancée, nous a dit Steven Joop.
La campagne de recrutement pour la future cohorte, celle de 2026, vient de s'ouvrir le 1er août. Pour les professionnels, comme il y a une phase de remise à niveau, nous recrutons très en amont, en fait. Au mois d'août, les gens peuvent candidater et puis ensuite, nous les rencontrons au sein du GIP Formation Cadre Avenir. Et puis ensuite, en début d'année, sur plusieurs mois, on va les accompagner, on va les remettre à niveau de manière à les sélectionner définitivement. Et ils intègrent ensuite le programme. Pour les étudiants, c'est beaucoup plus court, hein, puisque ce sont des gens qui sont des plus jeunes et déjà sur des filières de formation. Ils peuvent candidater au mois de février de l'année de départ.
Et les candidats au programme peuvent directement déposer leur dossier sur le site du GIP Cadre Avenir. On en vient à l'actualité dans la région où le rôle de la Chine est toujours scruté de près. Pékin vient d'annoncer qu'elle n'entendait pas construire de base militaire à Fidji. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Cette annonce a été faite à Suva par l'attaché militaire chinois aux îles Fidji, Zhang Yu, lors des cérémonies commémoratives du 98e anniversaire de la création de l'armée chinoise le 1er août 1927. La Chine n'a aucune intention cachée, a-t-il dit, et souhaite plutôt améliorer ses relations bilatérales à différents niveaux. Il a ajouté que son pays, je le cite encore, est simplement disposé à aider les îles Fidji en matière de formation et de renforcement de ses capacités de défense. Zhang Yu a expliqué que le partenariat que Pékin entend proposer à Suva sera axé sur le développement, la réponse aux catastrophes et le maintien de la paix plutôt que sur l'alignement stratégique. En tant que nation insulaire du Pacifique, les îles Fidji continuent de collaborer avec tous leurs partenaires dans un esprit de bonne volonté et de dialogue constructif, a indiqué en réponse le ministre fidjien de la Défense, Pio Tikonduadua. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h47, une nouvelle pause et on se retrouve dans un instant pour évoquer l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Ducos Quincaillerie est à Bourail. Découvrez Bourail Bricolage. Sur plus de 300 mètres carrés, des milliers de références, une équipe locale et des offres promotionnelles. Rendez-vous en magasin ou appelez le 322-332.
Votre 4x4 demande de l'aventure? Chez Calais Pneus, choisissez BF Goodrich, la référence des pneus 4x4 tout-terrain en Calédonie. Jusqu'au 23 août, moins 20% sur tous les pneus 4x4 BF Goodrich. Changez, roulez, explorez avec Calais Pneus PK4 et Gonnet. Visitez notre page Facebook.
Votre linge adore la lessive extra. Et vous aussi. Jusqu'au 31 août, tentez de gagner de quoi mettre un coup de propre dans votre buanderie. Deux machines à laver, deux centrales vapeur et deux robots aspirateurs sont en jeu. Pour t'inscrire au tirage au sort, scanne le QR code en magasin ou rends-toi sur jouet.nc. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Plus d'informations sur le Facebook sake.nc. Règlement déposé chez Maître Citrita.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Bodin.
Nour Atallah a quitté la France. Cette jeune Gazaoui de 25 ans était arrivée à Sciences Po Lille au début du mois de juillet grâce à une bourse validée par le ministère des Affaires étrangères. Mais elle a publié sur les réseaux sociaux des propos violemment antisémites qui ont mis en porte-à-faux le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Finalement, une solution a pu être trouvée et la jeune femme a quitté la France. Jacques Serret pour Europe 1.
L'étudiante Gazaoui a pris la direction du Qatar. Madame Atallah ne pouvait demeurer sur le territoire national. Elle a quitté la France, précise le ministère des Affaires étrangères. Alors le communiqué du Quai d'Orsay n'utilise pas le terme d'expulsion. Juridiquement, cette option paraissait inenvisageable. Paris semble avoir trouvé un terrain d'entente avec cette jeune femme et Doha. Le ministère remercie, je cite, les autorités qatariennes pour leur coopération déterminante. Nour Atallah poursuivra donc ses études au Qatar. Jean-Noël Barrot s'en félicite. « Je l'avais dit, nous l'avons fait », écrit-il sur X avant de féliciter ses services. Ce départ n'aurait pas été possible sans la mobilisation décisive des agents du Quai d'Orsay et de ceux qui les ont appuyés. « Je les en remercie », poursuit-il. Des services qui avaient fait venir cette étudiante le 11 juillet dernier avec 36 autres Gazaouis et qui, face au tollé suscité, ont donc rapidement réagi. Il faut dire que Jean-Noël Barrot était lui-même sous pression.
Toujours à propos de Gaza, le Hamas a publié une vidéo des otages israéliens affaiblis et amaigris. Le Hamas fait preuve d'une cruauté abjecte et d'une inhumanité sans limite, a commenté Emmanuel Macron. Mais le Hamas salue aussi l'initiative de la France de reconnaître un État palestinien, initiative rejointe par le Royaume-Uni et le Portugal. L'un des responsables du mouvement terroriste estime que c'est même l'un des fruits de l'attaque du 7 octobre 2023. L'actualité à l'étranger, c'est aussi la fin d'une semaine à Rome pour 1 million de jeunes. Ils ont participé au jubilé des jeunes, semaine qui s'est conclue par une grand-messe célébrée à Tor Vergata, où le pape Léon XIV a été accueilli comme une rockstar, Antonino Gallofaro.
Le pape arrive en hélicoptère avant de monter sur sa papa mobile dans une mise en scène filmée digne d'Hollywood. Il serpente au milieu d'un million de jeunes, acclamés pendant plus d'une demi-heure. Au terme de la messe, il livre un message fort en phase avec son temps.
Nous sommes plus proches que jamais des jeunes qui subissent les pires souffrances, qui sont causées par d'autres êtres humains. Mes frères et sœurs, vous êtes le signe qu'un autre monde est possible. Un monde fondé sur la fraternité et l'amitié, où les conflits ne se règlent pas par les armes, mais par le dialogue.
Le pape et les jeunes ont eu plusieurs temps de rencontre, un échange aussi fait de questions-réponses sur des thèmes tels que l'amitié ou les relations amoureuses. Ces réponses ont marqué Matteo et Claudia.
Le discours du pape qui était vraiment sur l'espérance, sur croire et sur faire confiance, c'était un moment juste magnifique.
Ça donne vraiment envie en fait, de continuer en fait, dans notre voie qu'on est actuellement en train de vivre.
Avant de saluer les jeunes, Léon XIV leur a donné rendez-vous en Corée du Sud pour les prochaines journées mondiales de la jeunesse en 2027. Rome, Antonino Gallofaro, Europe 1.
L'actualité en métropole est marquée par ces très vives tensions dans un centre de rétention administrative près de Toulouse. Les retenus, c'est ainsi qu'on appelle ces résidents, se sont révoltés à plusieurs reprises. Les heurts ont commencé pendant les repas. C'est ce qu'explique Cédric Politovic. Il est membre du syndicat Unité 31.
Les retenus ont refusé de sortir. Les retenus ont jeté des projectiles sur les collègues. Nourriture, des plateaux repas et des bouteilles d'eau. Et hier, on a eu le même type de mutinerie au réfectoire. Sauf que là, on a eu des outrages plus prononcés encore. Une collègue a été copieusement insultée. Notre retenue a frappé un collègue au niveau du thorax. Le contexte est dangereux et les collègues se sentent en danger. On a toujours eu des situations de tension plus ou moins. Mais là, ce qui se passe depuis 3-4 jours, sur la durée et sur l'intensité, on peut dire c'est inédit. Il faut savoir que le CRA a une capacité de 126 retenus. Bah, aujourd'hui, on en avait 116. Dont 70% de sortants de prison, la moitié qui savent qu'ils ne peuvent pas être expulsés. Donc la situation est très explosive dans le CRA. Les collègues sont épuisés, dépités et ils se sentent un peu à l'abandon.
Et le personnel réclame une trentaine de renforts pour pouvoir gérer la situation.